sont les raisons qui nous poussent à croire que tout d'un coup les médias ont des effets forts sur les gens.
Bon Jack, qu'est-ce qu'on a ?
Boule rouge, double homicide, un homme et une femme, tueur sexe masculin blanc, la quarantaine.
Sciences Po X et les étudiants du master métier de l'information vous présentent Révolution numérique, un podcast réflexif pour mieux comprendre et interroger les enjeux numériques de l'information. Pour cette première saison, l'équipe a décidé de revenir sur ce que certains médias ont qualifié d'affaire George Floyd, pour décrypter, épisode après épisode, ce que nous dit cet événement des usages contemporains du numérique et des débats qu'il suscite.
Burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. Yes. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our...
Hello, vous allez bien?
Coucou, ça va et vous? C'est vraiment trop bien de se voir.
Oui, trop content de vous entendre.
Et d'ailleurs, je suis tombée sur l'extrait de discours de, vous savez, de Tamika Mallory, l'activiste, là. Et j'ai trouvé ça trop pertinent dans le contexte actuel. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Ça m'a un peu pris au trip.
On ne se rend pas souvent compte à quel point ça touche les Noirs américains. Mais toute cette frustration, ce racisme d'État, ça doit s'accumuler au bout d'un moment.
Non mais vraiment. Et ça se voit dans le discours de Tamika Mallory. Enfin, on sent vraiment que son ton de voix est assuré et qu'elle exprime un ras-le-bol général, quoi. Enfin, c'est vraiment incroyable.
Les discours de ce genre, par des activistes, on en voit de plus en plus. Ça prouve bien qu'on a envie de verbaliser ce qu'on ressent pour continuer la lutte.
Oui, t'as vu comment le mouvement, il est puissant. Même en ce moment, 6 mois après, enfin, c'est dingue.
Oui, c'est dingue. Enfin, c'est fou comme les émotions sont fortes. Ça peut vraiment tout changer.
Salut à tous. Aujourd'hui, dans cet épisode de Révolution numérique, le podcast de Sciences Po X... On est avec Courcy et Nathan, et moi c'est Léa. Aujourd'hui, on va aborder le mouvement Black Lives Matter, mais surtout en parlant du rôle crucial qu'ont eu les émotions dans ce mouvement, et surtout comment ces émotions, eh bien, elles sont relayées et amplifiées par les réseaux sociaux.
I have a dream. One day, this nation will rise up.
Et oui, les émotions, eh bien, ça change tout. Dans les mobilisations. Black Lives Matter, c'est vraiment un exemple clé qui va nous aider à comprendre cet aspect-là, à comprendre la question de l'émotion et surtout à voir que la question de l'émotion dans les mobilisations, elle n'a été étudiée que très récemment. Alors aujourd'hui, on avait envie de parler du rôle des émotions dans ces mobilisations internationales avec Black Lives Matter, mais aussi du rôle des réseaux sociaux dans la transmission de ces émotions, qui a un rôle qui n'est pas des moindres, n'est-ce pas Nathan ?
Oui, parce que les émotions sont propres à la cause étudiée. Donc l'étude des émotions est indispensable pour comprendre la naissance et le développement des mobilisations. Le dispositif de sensibilisation sur les réseaux sociaux numériques est crucial et génère comme une triple interrogation des militants. Quoi ? Quel message ? Quelles émotions ? Comment ? Quel type de moyens ? Pourquoi ? Quel résultat ? Ici, les militants se mêlent avec le public pour toucher les pouvoirs publics.
Oui, exactement. Et vous savez, les nouveaux médias ont donné une place particulièrement importante à ces émotions. Via ces réseaux sociaux, tout le monde devient rédacteur, tout le monde est porteur d'idées. Et c'est ainsi qu'ils dépassent les médias traditionnels. Les réseaux sociaux permettent aux individus de porter directement une cause qui leur est chère, une cause qui leur est propre. Et donc on n'a plus besoin de légitimer des médias traditionnels, et ça, ça va changer beaucoup de choses dans le processus d'identification des individus à travers une cause.
Et oui, parce que, par exemple, pour le sociologue Castells, les humains aujourd'hui bien vivraient tous dans ce qu'il appelle une société de réseau. Et qui dit société de réseau, eh bien dit qu'Internet devient le principal moyen de développement d'une identité collective. Mais alors c'est quoi une identité collective, me direz-vous ? Eh bien pour répondre à cette question, nous avons fait appel à 2 sociologues, 2 auteurs spécialistes des mobilisations, ce sont Poietta et Jasper. Et pour eux, une identité collective, c'est la perception que peut avoir un individu d'une relation ou d'un statut partagé avec d'autres individus. Et donc, selon eux, cette perception, c'est ça qui motiverait les individus à participer à une action collective et du coup ça renforcerait par la même occasion le sentiment de communauté. Et finalement c'est comme ça que les individus vont s'identifier à une cause, c'est en s'intégrant à une communauté, en ayant une identité collective. Ils s'identifient à une cause parce qu'ils trouvent une résonance et un écho en eux-mêmes à cette cause, et ils la vivent par procuration, comme si finalement, eh bien, c'était à eux que ça arrivait. C'est dans ce processus que les émotions vont se développer. Ça va renforcer l'esprit collectif du groupe, l'esprit d'appartenance, et ça va encourager la lutte dans le même temps. On l'entend très bien ici d'ailleurs, cette question de la lutte et des émotions. Dans cette interview de manifestants Black Lives Matter à Londres, on va leur poser la question « Qu'est-ce que vous ressentez quand vous venez manifester ?» Et c'est ça leur réponse.
I say unrest. Like, it's just not fair what's going on.
Frustrated.
Solidarity.
With black people.
I feel strong. That's it. Plain and simple, strong.
Tired. Tired's the word I feel. Tired of all this.
Finalement, en fait, les émotions ressenties, elles vont permettre d'enclencher ou alors de solidifier la lutte. Surtout, ça va permettre de partager la cause, de la faire valoir, de la faire vivre, de la faire exister. Et aujourd'hui, c'est encore plus facile, je dirais, de faire exister une cause avec les réseaux sociaux. Parce que les prises de parti, elles sont partout. Elles sont dans les posts, elles sont dans les publications. N'importe qui peut exprimer son avis, n'importe qui peut partager un avis. C'est ce qu'on appelle l'autopublication. Et cette autopublication, elle va générer ce qu'on appelle un médiactivisme. C'est-à-dire que tout un chacun peut devenir activiste sur les réseaux sociaux. Et cette augmentation de l'activisme, eh bien, ça va former des communautés de mobilisation sur le net. Ce qui va donner à la notion traditionnelle de mobilisation dans la rue, eh bien, une toute autre forme et un tout autre prisme. Parce que là, on se mobilise avant même d'aller dans la rue. Donc il y a toute une dimension qui n'existait pas avant et qui a été rendue possible par les réseaux sociaux. Finalement, grâce à ces réseaux sociaux, la lutte, elle est immédiate, la lutte, elle est globale, la mobilisation aussi, et tout ça, eh bien sur la seule base des émotions.
C'est d'ailleurs l'idée de Tova Bensky, sociologue en sciences comportementales, et de Lorraine Langman, sociologue et professeur en psychologie sociale, pour qui les réseaux sociaux jouent un rôle dans la production, l'entretien et la propagation des émotions. Les communautés numériques sont responsables de la formation de communautés pré-politiques qui s'organisent en vue de la mobilisation. Finalement, les émotions sont partout, de la naissance des revendications à leur propagation et enfin à la politisation des émotions et des individus. Et donc les émotions seraient indissociables de la politique aujourd'hui et donc des luttes et de leur propagation sur les réseaux sociaux numériques.
À ce sujet, dans « La démocratie des émotions », Loïc Blondieu et Christophe Traigny montrent que les émotions sont au centre des mobilisations et de la démocratie représentative. Mais c'est Loïc Blondieu qui en parle le mieux sur France Culture. Alors, écoutons-le.
S'agit-il et pourquoi les émotions n'ont pas été considérées dans un premier temps s'agissant de ces pratiques participatives ?
Oui, on trouve une similitude entre la disqualification des émotions dans un certain nombre de théories, d'idéologies, de visions classiques de la démocratie. Alors, sans remonter à Platon, hein, l'opposition émotion-raison, c'est une opposition assez cardinale. Donc, dans le discours politique, il y a une certaine dévalorisation des émotions, et dans la recherche aussi. Ça n'est que depuis, disons, une vingtaine d'années qu'on a commencé à réhabiliter ces émotions, à penser qu'on pouvait par exemple expliquer les mobilisations autant par les émotions que par des stratégies rationnelles ou par des rapports de force. Et avec Christophe Straini, nous sommes demandés quel était le statut finalement des émotions dans ces démarches nouvelles qui se multiplient aujourd'hui à travers le monde d'associations des citoyens au processus de décision. Alors d'associations plus ou moins formelles, d'associations plus ou moins réelles, et nous nous sommes rendus compte que les émotions y jouaient un rôle.
En fait, on milite pour les émotions qui peuvent par la suite se transformer en stratégie de mobilisation. Et cette possibilité est accentuée par les réseaux sociaux. Grâce à eux, les émotions peuvent pendant des mois entiers être au cœur de l'activité numérique et politique. Parler émotion, c'est s'autoriser à parler à la première personne et s'approprier la lutte. Et surtout, augmenter le pouvoir d'agir. Car les individus ont l'impression d'avoir le pouvoir en main, de pouvoir se faire entendre alors que leur capital social et culturel ne le permet pas en temps normal, car jugé illégitime par les pouvoirs publics.
On va voir tout ça ensemble, du coup, on vous laisse avec la suite.
This nation will rise up, live out the true meaning of its creed.
Salut! Quand on a parlé l'autre soir du mouvement BLM et des émotions dans les mobilisations, vous avez dit que c'était dû notamment au racisme systémique, mais en fait, j'ai pas très bien compris ce que c'était.
Je pense qu'on les connaît bien maintenant, ces slogans. No justice, no peace, I can breathe, qui témoignent d'un contexte vraiment catastrophique en termes de race aux États-Unis. On parle de racisme systémique pour désigner des actes racistes devenus partie intégrante d'un système et qui deviennent inconsciemment systémiques en reproduisant des comportements racistes et inégalitaires envers une certaine population.
Exactement. En fait, dans le contexte du Covid, les émotions des Noirs américains sont exacerbées, notamment face à leurs difficultés face au confinement, donc des difficultés économiques, des difficultés sociales, mais aussi des difficultés de santé. Parce qu'on sait que face au virus, les populations noires américaines ont 2,4 fois plus de chances de l'attraper et d'en mourir que des populations blanches. Et cette surmortalité, cette surexposition, elle est due à quoi ? Elle est due, maintenant vous le savez, à ce racisme systémique qui s'est institutionnalisé aux États-Unis depuis des centaines d'années, depuis l'esclavage, depuis la ségrégation et les Jim Crow laws. Donc c'est un racisme systémique qui est systématique aux États-Unis. On assiste à des émotions face, finalement, à l'institutionnalisation du racisme et à la légitimation de discours qui sont biaisés, de discours qui sont racistes et de discours qui vont démoniser le mouvement et les manifestations. On se souvient des Proud Boys de Donald Trump. En fait, toutes ces tentatives de délégitimation raciste, ce sont autant de raisons qui vont légitimer le combat de Black Lives Matter. La colère, la rancœur, tout ça, ça va être le moteur des mobilisations.
Pour Thomas Jitcheff, il s'agit d'un sentiment d'humiliation et de honte, ici face au whitewashing centenaire. Tout porte d'ailleurs à observer que les liens affectifs du mouvement en sont d'autant plus forts et permettent de guérir des oppressions systémiques. En fait, dans ces mobilisations, les trajectoires des individus se rencontrent et permettent de porter plus solidement le mouvement en faisant appel à l'identification dont on a parlé en début d'épisode. Quand on parle de trajectoire, on parle de parcours de vie. Ça peut être d'une personne, mais aussi collective, façonnée par une culture commune ou des événements historiques. Ça s'applique bien au cas du mouvement Black Lives Matter, où la majorité des manifestants est mue par une histoire commune de ségrégation centenaire, et qui compte bien en finir avec cette institutionnalisation du racisme dans leur pays.
Et avec George Floyd, le mouvement Black Lives Matter, il a vraiment pris de l'ampleur. C'est là où il a vraiment été sur le devant de la scène, et notamment avec les réseaux sociaux numériques, déjà parce que c'est là où la vidéo de la mort de George Floyd s'est propagée, et surtout parce que cette vidéo, elle a mis le feu aux poudres. Et donc c'est pour ça que Black Lives Matter est revenu sur le devant de la scène, et c'est surtout pour ça qu'il y a eu une mobilisation aussi forte, parce qu'on le voit mourir sur la vidéo. La mobilisation a donc agi comme un contre-pouvoir, dont le moteur, on l'a vu, c'est la colère, la peur et l'identification. Et on va voir tout de suite que cette vidéo, elle a inspiré d'autres actes contestataires à leur manière, et on va voir ça avec Courcy.
Et pour vous en parler, on a choisi la chanson du rappeur DaBaby, Rockstar. Durant les BET Awards, DaBaby a interprété une version particulière de ce titre. On vous fait écouter un extrait maintenant. Even if I told you still wanna understand what happened, rather be myself or people look at me don't matter. A rockstar, just trying to keep it kosher, trying to keep my eyes on my own paper like my teachers told me. Soon as you think it's over, poof, number one on the charts, I'm never vicariously, oh there they go. Biasly pushing negative narratives, I'm ready though. Cops wanna pull me over, embarrass me. Abusing power, you never knew me, thought I was arrogant. As a juvenile, police pull their guns like they scared of me. And we used to howl, treat us not as the scary thing. Want anything we good at and we cherish it. Now we all fed up and it's coming back for everything. Rockstars, just watch the news, they burning cop cars. Kill another new, break the law and call us outlaws. What happened? Les paroles de cette musique sont vraiment incroyables. Elles font référence aux violences policières, aux émeutes et aux manifestations que la mort de George Floyd a entraînées aux États-Unis. Ici, en plus des paroles, ce qui est important, ce sont les images qui les accompagnent. DaBaby a recréé l'arrestation de George Floyd. Il était donc à terre, immobilisé par un policier qui a un genou posé sur sa nuque. Les images de son clip ont été qualifiées de poignantes et ont d'ailleurs touché énormément d'artistes. Son clip a été visionné plus de 11 millions de fois sur YouTube. On voit l'importance que les images ont créée durant les BET Awards. On avait vraiment une vive émotion de la part du public et je pense que c'est l'intention voulue par DaBaby en créant cette version de Rockstar.
Écoute, je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais.
Pour aller plus loin, on vous propose d'aller regarder le documentaire de Roberto Mivervini, What You Are Gonna Do When the World's on Fire. Visuellement très marquant et très marqué avec le choix du noir et blanc, ce documentaire plonge au cœur d'une communauté noire en Louisiane. On découvre la profondeur des effets du racisme systémique et leurs implications. Le documentaire prend le parti de se focaliser non pas sur un mouvement de révolte, mais sur des personnes et leurs émotions vécues. Le cinéaste italien brosse un portrait des membres de la communauté, leur vécu et tout ce qu'ils ont ressenti à travers leur histoire. Ainsi, on peut mieux comprendre les sentiments de révolte et d'injustice qui les poussent à se mobiliser dans la rue.
Et moi, je vais vous proposer autre chose à la suite de ce qu'a proposé Nathan. On va vous proposer aussi un article de la sociologue italienne Anastasia Giardinelli, qui s'intitule « Le pouvoir des émotions ». Promis, c'est un article super intéressant parce que, en fait, il dresse une typologie des différents rôles des émotions dans les mobilisations sociales. C'est-à-dire qu'elle va détailler le processus qui mène les militants à se mobiliser. C'est-à-dire comment les émotions sont à la genèse des revendications, comment elles sont utilisées pour propager les idées et la lutte, surtout comment elles finissent par se politiser. C'est un article qui est super intéressant et surtout qui récapitule un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans ce podcast de manière cohérente et de manière synthétique.
Alors, tout ce qu'on a pu voir ici, eh bien c'est le travail des émotions dans les mobilisations, des émotions qui jouent un rôle crucial.
La question identitaire est le vecteur qui canalise les émotions, notamment dans le cadre de la lutte Black Lives Matter. Car toutes les émotions liées au racisme systémique aux États-Unis sont vécues par une part importante de la population noire. Le tout est accentué par les difficultés actuelles liées à la crise du Covid-19.
En plus de ça, les réseaux sociaux numériques constituent les plateformes de l'expression de ces mobilisations, par la création d'une communauté pré-politique et la diffusion en images de la lutte. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que ça vous a mieux aidé à comprendre le rôle des émotions dans les mobilisations et les réseaux sociaux. Dans le prochain épisode, vous retrouverez Aloïse, Gabriel et Maïssam pour un numéro, justement, sur le rôle des influenceuses qui ont utilisé les réseaux sociaux pour appeler à la mobilisation au mouvement Black Lives Matter.
À bientôt.